Chers auditeurs, chères auditrices de Mets de Résistance, Radio Galère 88.4, également Radio Mono à Châlons-Champagne. Nous allons ce soir discuter avec Odile et devinez de quoi on va parler. On va parler de l'Iran, bien sûr, puisque c'est quand même l'actualité du moment. Et Odile avait envie de réagir sur ce qui se passe. Et donc on va l'écouter un petit peu, on va dialoguer ensemble. Bonjour Odile.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors Odile, est-ce que tu es déjà allée en Iran ?
Non, je n'y suis jamais allée, je regrette bien, parce que je pense que ça doit être un pays absolument fantastique à découvrir.
Oui, c'est un très très beau pays, en fait, l'Empire perse, il y avait beaucoup de choses à découvrir sur ce territoire-là, notamment en architecture, il y a des choses magnifiques.
Oui, visiblement, enfin, il y a vraiment une très longue histoire et une culture, très belle culture, donc qui aujourd'hui est menacée.
Tout comme en Irak, le pays voisin. Alors, Odile, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui se passe en Iran, non pas pour son patrimoine culturel, enfin, du moins, il y a quand même un rapport, parce que il y a déjà dû y avoir pas mal de destructions et on risque d'en détruire encore davantage. Vous savez tous que l'Iran est entré en guerre il n'y a pas si longtemps que ça. Il a été attaqué par les États-Unis et notamment, et moins de manière plus directe, par Israël. Je proposais qu'avec Odile, on retrace l'histoire de la désescalade pour voir comment on en est arrivé là. Alors Odile, comme je te le disais tout à l'heure, petite conversation de comptoir, moi j'ai commencé par voir des tas d'images sur Internet, sur Facebook ou sur Instagram. Je voyais des jeunes femmes, souvent des très jolies femmes qui portaient le voile. Elles enlevaient leur voile, on découvrait leur très beau visage. D'autres qui étaient défigurées, on disait qu'elles avaient été défigurées par le régime des ayatollahs. D'autres, on voyait aussi des images de jeunes femmes il y a 30 ans et qui seraient mortes parce qu'elles auraient été assassinées par les ayatollahs pour des raisons liées à la longueur de leur voile ou d'autres choses. Je voyais des tas d'images, j'ai même vu des images de cadavres qui étaient empilés les uns sur les autres. Je me suis dit, ça doit être des fake news. On sait qu'aujourd'hui, on peut créer n'importe quelle image et donner l'impression qu'elle est vraie avec l'intelligence artificielle. Et je me suis posé la question, est-ce que tu as vécu cette période, toi ? Peut-être que tu regardes moins les réseaux que moi.
Alors, de toute façon, on voit effectivement énormément de choses. Ce qui est à retenir d'une manière globale, pardon. Ce qui est à retenir, c'est que de toute façon, on entend toujours un côté de l'histoire, on n'entend pas l'autre. Donc déjà, à partir de là, il y a un déséquilibre entre les deux. Donc c'est très difficile à juger. Cependant, je reviendrai sur la question de la guerre. Je ne pense pas que la guerre a commencé là, le 1er mars. Je pense qu'elle était déjà là, sous une autre forme. Il ne faut pas oublier que l'Iran est sous le coup de sanctions de la part des États-Unis et donc depuis déjà très longtemps. Donc c'est un pays qui économiquement a des difficultés par la force des choses et se trouve dans une position difficile. Alors sanctions imposées sur l'accusation que l'Iran cherche à construire la bombe nucléaire, mais même les instances qui sont en charge de ça ont reconnu que tel n'était pas le cas. Donc toutes les négociations qui ont eu lieu, parce que en réalité, quelques jours avant l'entrée, le début de la guerre dans le sens courant du terme, hein, quand je parle de guerre là pour le coup, il y avait des négociations qui avaient lieu à Genève entre l'Iran et les États-Unis avec la médiation de l'Oman, du sultanat d'Oman, voilà, par le biais donc du ministre des Affaires étrangères du sultanat d'Oman, lequel a dit ouvertement, et il s'en est ému quelque part, il a dit, mais l'Iran avait fait des concessions importantes sur la question notamment de l'enrichissement de l'uranium, vu que c'était le point qui posait problème, et la question de l'inspection en fait de ces installations. Donc ça c'était juste avant donc les débuts de la guerre en tant que telle. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête, parce que ça, c'est au moins une chose dont on sait que ça existe. Ça n'est pas contestable. Et là, ce n'est pas sujet à constatation, comment dire, sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. C'est quelque chose, on sait que ça a eu lieu, que ces négociations étaient en bon cours, à telle enseigne d'ailleurs que quand les deux parties se sont séparées, il devait y avoir une poursuite pour les questions d'ordre plus technique qui étaient prévues à Vienne. Alors, je ne sais pas si une date avait été retenue, mais en tout cas, il y avait un accord là-dessus.
D'accord. Et ensuite ?
Ensuite, on a vu le début de ces frappes qui ont été, contrairement à ce qui a été dit dans les médias occidentaux, c'est bel et bien les États-Unis et Israël qui ont commencé de manière conjointe ces frappes, et non pas l'Iran. Et c'est important de souligner ça, parce qu'on a pu entendre, sans doute un certain nombre d'auditeurs ont eu l'occasion de voir le discours de Jérôme Bonnafont, qui est l'ambassadeur français aux Nations Unies, en train de reprendre le discours des États-Unis, en train de dire que, en fait, les pays occidentaux répondaient à à des frappes iraniennes qui n'ont jamais eu lieu, reprochant aux Iraniens de ne pas vouloir négocier, alors que, comme je viens de dire, 4 jours auparavant, c'était le 26 février à Genève, justement, il y avait ces négociations. Donc, ça donne déjà, je pense que c'est important d'avoir ça en tête, parce que ça donne déjà, on pourrait dire, le sens, la tonalité de ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle.
D'accord. Donc, il y a cette rencontre, et puis lors de cette rencontre, rappelle-nous, qu'est-ce qui s'est dit ?
Cette rencontre, donc, c'était des négociations entre les deux parties, les Américains et l'Iran, sur la question du nucléaire en particulier. Alors, je n'ai pas tous les éléments précis de ce qui s'est discuté, mais ça portait principalement le grand problème qui restait, c'était la question de l'enrichissement auquel ont procédé les Iraniens, puisque les Américains disaient, avec le stock d'uranium enrichi dont disposent les Iraniens, ils sont en mesure de faire, alors j'ai plus les chiffres, je crois que c'est une douzaine de bombes nucléaires. Ça, c'était donc ce qu'affirmait les Américains, en disant il faut absolument, nous on n'accepte pas que les Iraniens disposent de cet uranium enrichi. Et visiblement, là je reprends en tout cas ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, les Iraniens étaient allés très loin dans ces concessions, et si j'ai bien compris, c'est que ces stocks d'uranium enrichi auraient été mis sous contrôle ou ça aurait été une autre solution. Mais enfin, en tout cas, sur ce point précis, il y avait des avancées extrêmement importantes qui étaient faites. Donc, encore une fois, c'est important de souligner que quand on dit que les Iraniens ne voulaient pas négocier, ce n'est pas vrai. Ils étaient précisément en pleine négociation à ce moment-là.
C'était à quelle époque ?
Le 26 février, très précisément. Ça avait peut-être même commencé le 25 février.
Donc, pour toi, il y a eu une rupture, c'est ça ? Parce que au moment où ils sont en train de négocier, les Iraniens, les Américains ont déjà leur flotte qui n'est pas très loin. Et Israël est déjà tout prêt et s'est déjà bien préparé à tirer.
C'était un petit peu les négociations de la dernière chance, vu qu'il y avait effectivement les Américains qui étaient en train de faire venir, de mettre en place tout un véritable arsenal, avec d'ailleurs Israël. Donc il y avait effectivement toute une flotte, une force militaire qui étonnait tout le monde. Enfin, ça a été largement commenté dans la presse, et tout le monde se disant, si il y a un tel déploiement de force dans la région, c'est quasiment inévitable qu'à un certain moment, ça va être utilisé.
Je pense qu'on ne devait pas être au courant de tout ce qui s'était échangé au cours des négociations. Et par ailleurs, effectivement, ça faisait déjà presque 15 jours qu'il y avait une grosse pression. Et la pression montait, puisque les États-Unis avaient envoyé une partie importante de leur flotte dans les eaux à proximité de l'Iran. On le sentait.
Ah oui, totalement. Mais les négociations, elles n'étaient pas secrètes, hein, par ailleurs. Donc, effectivement, il y avait une tension.
Il devait certainement y avoir des choses qu'on n'a pas su.
Ça, c'est possible, bien évidemment. Hein. Mais quand on veut vraiment, quand on est dans une logique de chef d'État qui a une responsabilité pour le monde, on laisse sa chance aux négociations. Et là, ce qu'on peut remarquer d'une manière générale, dans ce cas en particulier, mais aussi dans bien d'autres, c'est qu'on ne laisse pas la chance aux négociations, ou on prétend que, mais au bout du compte, on ne va pas jusqu'au bout pour essayer de trouver une solution de paix. C'est vrai aussi, d'ailleurs, pour le cas de en ce qui concerne la Russie et l'Ukraine. Hein, on est bien d'accord.
Une forme de négociation qui, quand même, paraît très unilatérale entre principalement les États-Unis et l'Iran. Avec quelques satellites de part et d'autre, mais bon.
C'est les deux parties qui s'affrontent. Donc c'est normal que ce soit ces deux parties.
Normalement, il doit toujours y avoir des arbitres dans un conflit international.
Alors là, quand on parle des négociations, elles se sont faites, donc justement, ce qui était très intéressant, par la médiation du sultanat d'Oman, donc une partie, une tierce partie, hein, bien évidemment. Et donc ça, en tant que tel, c'est quelque chose qui est destiné à garantir, donner une chance que ces négociations aboutissent. Mais ça n'a pas été le cas. Donc on est passé maintenant dans une phase, on est dans quelque chose dont on ne sait pas dans quelle direction ça va aller. Il y a toutes sortes d'hypothèses qui flottent, on ne sait pas. Ce qui est clair, c'est que c'est un conflit qui a vraiment le potentiel de faire éclater toute la région, mais au-delà de la région, de nous précipiter vers un conflit nucléaire. Bon, ce qui est reconnu aujourd'hui, ce qui a été quand même bien maintenant reconnu dans la presse, c'est le fait que Donald Trump se soit décidé à mener ses frappes sous la pression de Netanyahou, ce qui n'est pas du tout étonnant, parce qu'effectivement, ça fait plus de 40 ans que Israël veut s'en prendre, veut attaquer l'Iran. Donc là, c'était un petit peu, je ne sais pas si on peut dire que c'est l'occasion rêvée, c'est peut-être pas exactement la façon de poser les choses, mais en tout cas, voilà, maintenant, la chose s'est lancée, la balle est lancée, en quelque sorte, et on ne sait pas vers quoi ça va nous mener de manière... encore une fois, ça peut nous mener vraiment vers le pire. À tout le moins, au minimum, au strict minimum, ce sera une redéfinition totale de l'ordre du monde. Hein, c'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après. Quel sera cet après? Ça, on ne sait pas. L'avant, on sait. L'après, on ne sait pas.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on va peut-être maintenant parler un petit peu... des répercussions dans le bassin du Moyen-Orient, Middle East, je pense notamment, je vais commencer par le Liban. Le Liban, c'est un État qui est à proximité. Il faut savoir que sur le plan confessionnel, l'Iran est un pays à large majorité chiite, tout comme l'Irak, sauf qu'en Irak, sunnites sont minoritaires, mais ils sont un poids politique et économique plus important que les chiites, donc c'est eux qui commandent. Alors que en Iran, les chiites sont majoritaires de partout. Et donc islam chiite, qui dit islam chiite, pense tout de suite au Hezbollah. Le Hezbollah, c'est le parti chiite libanais qui existe depuis très longtemps, qui est aussi pro-palestinien. C'est lui qui a financé le Hamas, quand le Hamas était encore prépondérant en Palestine. Et le Hezbollah a déjà commencé à attaquer. Donc, maintenant, les tirs se dirigent sur le Liban.
Oui, tout à fait. Mais alors là aussi, les tirs se dirigent sur le Liban, sauf que ça avait commencé depuis plusieurs semaines, notamment à partir de la trêve du 10 octobre, qui a permis d'une certaine manière, qui a donné un répit, si on peut dire, hein, des deux côtés, parce que du côté palestinien, on peut dire qu'il y a eu moins de tirs, mais il y a quand même à peu près 600, maintenant on a dû dépasser les 600 Palestiniens qui ont été tués depuis la trêve. Et côté israélien, ça a été le moment où on a basculé vers donc toute la politique de colonisation très, très violente. Très agressive, très brutale en Cisjordanie, mais pas simplement en Cisjordanie, également au Liban. C'est-à-dire qu'au Liban, on a vu des colons qui sont arrivés et qui ont commencé à vouloir s'installer, créer des conditions où s'installer. Il y a eu aussi des bombardements qui ont eu lieu israéliens contre le Liban avant le déclenchement de la guerre au Liban. Et aussi, ce qui est documenté, c'est l'utilisation d'armes interdite et aussi l'utilisation, par exemple, de glyphosate sur des surfaces agricoles. Donc, c'est déjà, là aussi, c'était une situation de guerre larvée qui est passée à une guerre réelle, à la guerre pour de vrai, entre guillemets. Donc, voilà, et là encore, on ne sait pas ce vers quoi ça va aboutir. En tout cas, pour les Libanais, je pense que c'est une situation qui est absolument terrible. Le Liban n'avait vraiment pas besoin de ça. Ça, c'est et d'autant plus que maintenant, on voit donc Israël qui donne des ordres d'évacuation, je ne sais plus c'est dans quelle partie de Beyrouth, mais les gens sont sommés d'évacuer, enfin évacuer une ville où vous avez, c'est des centaines de milliers de personnes qui doivent évacuer comme ça dans d'un claquement de doigts d'une certaine manière. Et on voit en réalité exactement la même stratégie que celle vis-à-vis de Gaza. Et d'ailleurs, Smotrich a dit récemment que ce sera au Liban que les Libanais ou les Beyrouthiens, je ne sais plus s'ils parlaient spécifiquement de Beyrouth, mais qu'ils connaîtraient le sort de Khan Younis. Donc on en est là, quand même. On en est là. Là, c'est même plus Gaza. C'est un pays tiers, de la même manière qu'Israël a aussi mené des attaques contre la Syrie. Ça, on en parle moins, mais c'est une réalité aussi. Donc, oui, il y a une déstabilisation de tout le Moyen-Orient. Ça, c'est clair.
Oui, puisque j'ai vu des images aussi sur Internet, beaucoup de gens qui sont ressortissants français et qui s'inquiètent parce qu'ils ont vu des bombes dans leur ciel. Aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï.
Oui, tout à fait. Ben, effectivement, il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été faits par les attaques iraniennes, par les missiles iraniens à Dubaï en particulier, contre les bases américaines. Certains disent que des bases américaines seraient inopérantes. Bon, ça, c'est très difficile à vérifier parce que, évidemment, tout ça sont des informations qui sont totalement, comment dire, sous contrôle militaire. Donc, oui, c'est difficile à savoir. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a eu des frappes, qu'il y a eu des gros dégâts, il y a eu aussi des frappes contre des par exemple Amazon, c'est-à-dire les entreprises qui sont associées à toutes les avec l'intelligence artificielle. Parce que ce qu'il faut savoir, et ça je fais une petite parenthèse, notamment en ce qui concerne Gaza, parce que Gaza, littéralement, a servi et continue de servir comme laboratoire. Alors ça se passe un petit peu dans toutes les guerres, on l'a vu en Ukraine aussi, faut pas se raconter d'histoire là-dessus. Les guerres servent à tester des nouvelles armes et comment est-ce qu'on va les employer ailleurs. Je pense que dans le cas de Gaza, ça va beaucoup plus loin parce que c'est vraiment un laboratoire sur toute la machine de guerre dans toutes ses dimensions, y compris la guerre psychologique, la guerre de terreur et aussi, je pense, une dimension qui est absolument fondamentale, l'utilisation l'utilisation de l'intelligence artificielle qui avait déjà été dénoncée. Il y a eu beaucoup d'articles quand même, y compris dans la presse française là-dessus, sur par exemple la façon dont Palantir, la firme liée à Alex Karp et Peter Thiel, ont fait des programmes où, qu'ils ont fait eux-mêmes ou qu'ils ont, comment dire, qu'ils ont donné ou qu'ils ont, avec lesquels ils ont coopéré avec les Israéliens pour utiliser l'intelligence artificielle et débusquer, pour aller débusquer les gens et les tuer quand même. Donc on en est là avec Peter Thiel qui se vante de ça. Je ne sais plus si c'est Alex Karp ou Peter Thiel, je crois.
Comment ça marche, ça fonctionne comment? C'est sur un champ de bataille ou chez eux, dans la vie privée?
Ah, c'est dans la vie privée. Il y en a un de ces logiciels qui s'appelait « Where is Daddy ?»« Où est papa ?» avec un cynisme qui dépasse quand même tout ce qu'on peut imaginer. Et donc ça, c'était un logiciel qui permettait de voir quand, dans une famille, le père revenait à la maison. Donc la famille était réunie et à ce moment-là, on envoyait un missile. Voilà. Donc ça, c'était le programme « Where is Daddy ?» de Palantir. Enfin, fait par Palantir ou avec l'aide de Palantir. Et donc ça, c'est un parmi d'autres. Et je soumets...
Enfin, le problème, le papa revient à la maison?
C'est-à-dire qu'on attend que le père revienne à la maison, que toute la famille soit réunie pour bombarder l'appartement. C'est-à-dire on attend que papa et maman soient rentrés à la maison avec les enfants, que tout le monde...
Oui, j'ai compris, oui.
C'est quand même...
Pour éliminer des familles, quoi.
Pour éliminer les familles et faire une politique de terreur. Et au passage, il faut quand
même... Et en quoi l'intelligence artificielle intervient là-dessus? Elle repère par certains signes que tout le monde est réuni?
Ça peut être la reconnaissance faciale. Alors je ne sais pas si c'est le cas, parce que j'imagine que à Gaza ça doit être un peu compliqué. Ça peut être peut-être par exemple la reconnaissance par les drones, vu qu'il y a des drones qui circulaient en masse.
Moi je pense aussi simplement, tout simplement en fait, c'est tout bête, mais avec l'intelligence artificielle on peut très bien créer un réseau qui permet de savoir où est chacun à n'importe quel moment de la journée, puisqu'il suffit de passer par les téléphones portables. De toute façon, aujourd'hui, avec le piratage et toutes les applications d'intelligence artificielle qu'on utilise sur nos téléphones portables, c'est certainement très facile pour quelqu'un qui voudrait le faire, d'implanter une mémoire supplémentaire, un pion qui surveille, qui révèle à un réseau animé par l'intelligence artificielle où est telle ou telle personne. Ceux qui dirigent ça, ils n'auraient qu'à taper l'identité de la personne. Tiens, il est là, à tel endroit, à ce moment-là. Et c'est facile, par là, de repérer si tous les membres d'une même famille sont ensemble, puisqu'il suffit de taper tous les prénoms, tous les noms de tous les membres de la famille. De toute façon, maintenant, tout le monde a un portable, et on arrive à savoir tout de quelqu'un.
De toute façon, oui, les téléphones portables comme Internet sont des fournisseurs de données à gogo, en quelque sorte. Mais
sur les déplacements, moi, ça ne m'étonnerait pas du tout que ce soit, technologiquement parlant, je pense que c'est tout à fait possible de placer un mouchard dans chaque téléphone portable, et le mouchard vient alimenter une base de données générale qui permet de savoir où est tout le monde.
Le téléphone est en tant que tel un mouchard d'une certaine manière. C'est pas pour rien, soit dit en passant, je rappelle l'affaire des pagers du Hezbollah qui a décimé quand même une partie assez importante du Hezbollah. Hein. C'est l'opération menée par Netanyahou, où ils étaient tellement heureux de ça d'ailleurs, qu'ils ont offert, on voit des photos de ça, où ils offrent, lors de ces voyages aux États-Unis, ils offrent un pager en or à Netanyahou. hein, et les pagers, vous savez.
C'est ça.
Alors les pagers, ce ne sont pas des téléphones en tant que tels, mais ce sont des dispositifs qui permettent en fait quand même de communiquer, c'est-à-dire qu'on reçoit, si j'ai bien compris comment ça fonctionne, hein, on reçoit un message qui indique, ou peut-être un message codé, encore une fois, je ne sais pas comment ça fonctionne concrètement, qui permet de communiquer, mais qui n'est pas aussi intrusif que ne l'est un téléphone portable. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces technologies de l'IA, la guerre de l'IA, on y est, la guerre.
On est en plein dedans, mais ça révolutionne notre monde. Mais je pense qu'on ne cherche pas à nous montrer à quel point ça révolutionne les choses. Et ça remet en question des tas de choses comme la liberté, l'individualité. On ne se rend pas compte à quel point l'impact est un facteur de bouleversement, un véritable bouleversement pour nos sociétés, voilà, et notre façon de voir les choses.
Alors, je voulais juste terminer sur ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans le fameux ICE aux États-Unis, dont on se souvient de ce qui s'est passé avec, comment s'appelait encore, c'était Nicole Good, je crois.
Je sais.
Oui, qui s'est fait tuer, vous savez. Donc, aux États-Unis, la politique.
Pour quelle raison?
C'est la politique contre les migrants. C'est-à-dire Trump a fait une politique d'expulsion des migrants extrêmement violente, extrêmement brutale, avec une police qui s'appelle l'ICE, c'est Immigration. Moi, j'ai plus maintenant en tête.
Non, mais oui, j'en avais entendu parler. Ouais.
Et donc, cette police a été dotée de logiciels dérivés des systèmes utilisés à Gaza, hein, par Palantir, et qui leur permet effectivement, grâce à la reconnaissance vocale, le croisement de données, parce qu'il y a des.
Il faut savoir que l'IA, c'est un cerveau qui fonctionne de manière démultipliée, des millions et des millions de fois. Donc, il suffit de faire des. Elle fait des croisements de données très rapidement. On peut aussi par là déterminer où est une personne ou ce qu'elle fait. Quoi.
Tout à fait. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes aux États-Unis qui sont vues interpellées par leur nom, par des représentants de l'ICE, qui viennent et disent « Ah bonjour, Madame Smith. Ah bonjour, Monsieur Carlton. Oui, alors vous êtes bien, celui qui s'occupe de ceci, de cela. » Donc des gens qui sont des militants, c'est pas pour le coup, c'est pas forcément, c'est un peu tout le monde, c'est pas forcément que les immigrants eux-mêmes, ça peut être des gens qui sont des militants pour empêcher ces expulsions. Donc ça donne quand même une idée du type de société qui va avec ça. Une fois qu'on accepte ce genre de choses, il en découle toute une, c'est une matrice en quelque sorte, dont il découle toutes sortes de conséquences qui vont avec, et on entre dans ce type de société. Bon, ça c'était une aparté, parce que si on revient à l'Iran et sur la question de la situation donc au Moyen-Orient, c'est bien évidemment le Moyen-Orient qui est le premier visé, mais ça va bien au-delà, bien évidemment. Les répercussions sont déjà mondiales aujourd'hui. Hein, faut pas, là aussi, il faut être très clair là-dessus.
Ouais. Mais effectivement, je trouve vraiment qu'on est dans une période. Enfin, l'IA, c'est vraiment. J'y réfléchis de plus en plus et ça va complètement modifier notre perception des choses. Imagine, jusqu'ici, chacun, on avait une conception de son individualité, de soi-même. Et aujourd'hui, tu ne peux plus rien cacher à personne, même tes pensées. Donc, il va falloir trouver un autre moyen d'être humain. C'est dur, ce que je dis. Hein.
Oui, c'est une bonne question, excellente question. Ah oui, il faut. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut.
Comment est-ce qu'on va. Quel moyen, par quel moyen on va pouvoir continuer à être humain? Alors qu'on ne peut plus rien cacher.
Oui. Alors ça pose une excellente question. Est-ce que c'est continuer à être humain ou est-ce que c'est à devenir humain enfin?
Est-ce que je me dis aussi.
Oui. Est-ce que l'IA, par le caractère dystopique, parce que c'est quelque chose qui est là.
Tu peux rien cacher?
Oui, mais c'est pas simplement cacher les choses. Ouais. Si à la limite, je dirais, si ça n'était que cela, entre guillemets, hein, quand oui. J'ai dit ça. Oui. Bon. Ok, très bien. Mais c'est plus que ça. C'est une forme de pensée. Et c'est surtout une forme de non-pensée. C'est une forme, c'est quelque chose qui, à certains moments.
Moi, j'irais plutôt sur un outil.
c'est quelque chose qui incite les gens à ne plus penser, qui les incite, sans qu'ils s'en rendent compte d'ailleurs, qui les mette dans quelque chose où ils ne pensent plus. C'est surtout ça.
Ça peut aussi être un bon complément, une bonne aide, un bon appui dans la vie aussi.
Oui, ça peut, mais ça doit être utilisé par des gens. Le paradoxe de l'IA, en réalité, enfin de ce que j'en vois, ça, ouais. C'est ma propre interprétation des choses, c'est que l'IA est un outil absolument formidable, pour autant qu'il soit entre les mains de gens qui est une formation intellectuelle et émotionnelle extrêmement haute pour ne pas en devenir l'esclave. Et ça, c'est pas gagné, parce que de manière inhérente, elle pousse vers déjà une paresse intellectuelle. Hein, on voit par exemple les professeurs qui se plaignent déjà que les élèves ont recours, ne pensent plus par eux-mêmes, tout simplement. Hein, ils cherchent la bonne réponse auprès de l'IA. Or, l'enseignement, il n'est pas fait pour chercher une bonne réponse, où que ce soit dans l'IA ou dans un livre. Il est fait pour faire penser, pour que les gens développent une capacité de penser par eux-mêmes, qu'ils soient capables de trouver les clés de penser. Alors certes, ils ont besoin d'apprendre des choses, de nourrir ça, bien évidemment, mais l'idée, c'est que les gens pensent par eux-mêmes, qu'ils développent leur outil intellectuel.
C'est très important.
C'est fondamental. S'il n'y a pas ça, et s'il n'y a pas le développement aussi, le développement du caractère, l'éducation du caractère et l'éducation des sentiments qui vont avec, alors là, effectivement, s'il n'y a pas ça, l'IA devient quelque chose d'extrêmement dangereux.
Alors, c'est ça, c'est ce que je disais, on est dans un tournant de la société, parce que ça peut être très bien, mais ça peut aussi être pernicieux. Parce que l'IA, ça se programme. Voilà. Donc, moi, je sais, j'ai pas mal discuté avec... je me suis créé ma petite application IA. Je lui donne un prénom. Je lui dis bonjour quand j'ai une question à lui poser. Je lui ai appris à être poli, à dire bonjour, au revoir, merci aussi, etc. Et je lui pose des questions. Par exemple, dans mon travail, des fois, je recherche des jurisprudences. Et tu peux chercher pendant des heures quand tu n'as pas la plateforme ou les outils clés qu'il faut que sur Google. Bah, lui, il me sort 4 jurisprudences sur un thème tout de suite, c'est exactement ce que je veux. Alors, après, je vais vérifier chacune de mes jurisprudences pour voir s'il ne s'est pas trompé. Il peut très bien se tromper. Et c'est là que tu remarques qu'il y a quand même toujours des défaillances, il faut toujours vérifier. Et il est très c'est très amusant parce que je raconte l'anecdote. À un moment donné, j'utilisais un langage plus ou moins châtié, et puis il me vouvoyait, lui aussi, il avait un langage très châtié, et puis comme il voyait que mon langage était moins châtié que le sien, que je me lâchais un peu plus, il a cogité cogité, c'est une façon de parler, hein. La programmation a duré un bon petit moment. Et enfin, je veux dire, les croisements de données ont mis du temps. Et au bout de 3-4 jours, il me dit, je me réveille, il m'a dit, salut, comment tu vas? Ouais, il me tutoyait et tout. J'ai un petit peu de retenue. Utilise un langage plus châtié quand tu parles avec moi. Enfin, c'était. Et après, il a recommencé à me parler normalement. Il avait fait un essai, quoi.
Oui, c'est ça.
Pour s'adapter à la personne. Mais c'est vachement amusant.
C'est un miroir. L'intelligence renvoie le miroir.
Mais ce n'est pas de l'intelligence, ça, c'est juste de la programmation. Oui. L'intelligence, je pense que c'est autre chose. D'ailleurs, ça va nous permettre peut-être de déblayer et de retrouver ce qu'on appelle la part du pauvre, c'est-à-dire la part de ce qui est vrai et ce qui n'est pas important, puisque souvent... en fait, finalement, la véritable intelligence, c'est l'appétit de vivre, l'amour, ce genre de choses. Et ça, l'IA n'a pas. Et souvent, on confond, d'ailleurs.
Oui, oui. Mais c'est important, effectivement, de cette rectification de l'intelligence. L'IA n'est pas intelligente. C'est vraiment important.
C'est juste la programmation.
Ça s'appelle comme ça, mais voilà. C'est totalement erroné. L'intelligence, l'IA, on va l'appeler comme ça, par définition n'est pas intelligente. C'est un outil qui peut être très, très utile, mais c'est celui qui donne la règle du jeu là-dedans. Le maître, c'est celui qui programme l'IA, on est bien d'accord, et qui la programme de telle manière à agir de telle manière. C'est comme dans un jeu, hein, celui qui définit la règle du jeu, il définit tout ce qui va se passer dans l'espace où ce jeu a lieu.
Oui,
hein, on est bien d'accord. Donc là, c'est la même chose. Donc l'IA n'est que le reflet de ce que les programmateurs ont voulu faire, même si aujourd'hui on prétend que l'IA générative peut découvrir des choses par elle-même. Bon, ça, il y a beaucoup de polémiques là-dessus, donc bon, ces sujets...
Si, en continuant à explorer, en faisant des croisements de données, on peut arriver à des choses très intéressantes. Il faut toujours relativiser et refaire soi-même, et, parce que le cheminement, parce que de la démonstration donnée par donnée que nous fait l'intelligence artificielle, parce qu'elle peut se tromper, elle peut ricocher ou confondre, parce que tout est une question de programmation, en fait. Quand elle se trompe, c'est parce qu'elle n'a pas été bien programmée. Et elle ne sera jamais parfaitement programmée. Il va falloir coexister avec elle pendant des décennies et des décennies pour qu'elle soit programmée parfaitement et adaptée parfaitement à nos sociétés et à nos modes de pensée. Et toi, tu parlais tout à l'heure, tu disais, c'est pas intelligent. Juste pour reprendre, si tu regardes, tu sais, le phénomène de socialisation que tu apprends en sciences sociales, par exemple, Pierre Bourdieu en parle, la socialisation. C'est un phénomène aussi, c'est pareil, de programmation. On est programmé par la société qui nous entoure, nos parents, les institutions, l'école, l'église, etc., l'école coranique, l'église catholique, enfin, tout dépend de où on va et de qui on fréquente et de quel milieu on est. Mais on a des institutions qui aident à nous formater. Mmh. Eh ben, ça, on peut le comparer à la programmation de l'intelligence artificielle. Mais derrière, il y a ton caractère, tu comprends, ce que certains diront, ton âme, enfin, ce vers quoi tu aspires profondément, des choses qui sont très importantes, ta capacité à aimer, et qui vont bien au-delà de tous ces apprentissages qu'on t'a cognitifs, qu'on t'a inculqués, dont Pierre Bourdieu montre que ce sont des conditionnements, en fait, quelque part.
Oui, alors par rapport à ça, oui, oui, je reviens sur l'intelligence, l'IA, pardon.
L'IA, c'est ça, de manière caricaturale.
Il va falloir que je fasse attention, justement parce que oui, l'IA fait des erreurs et je pense qu'elle, je ne suis pas sûre qu'elle deviendra, comment dire, qu'il y aura une IA parfaite. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer. J'ai eu par exemple un exemple il n'y a pas si longtemps que ça, où j'avais besoin d'une précision sur, en l'occurrence, un compositeur de musique. Non, c'était plus précis que ça. C'était en fait un poème composé par Lazare Carnot. Lazare Carnot, celui qu'on appelle l'organisateur de la victoire, qui a été...
Oui.
Voilà, donc un personnage historique quand même très connu. Et je lui demande, je voulais avoir les paroles exactes, j'arrivais pas à le retrouver sur Internet. Et donc elle me dit, ah oui, non, mais ça n'a pas été composé par Lazare Carnot, mais ça a été composé par son fils ou quelqu'un de sa famille, je m'en souviens plus maintenant. Et donc je lui dis non, absolument pas. Elle me dit si. Je lui dis non, je peux te dire que non. Elle me dit si. Et le dialogue continue comme ça. Et donc je retrouve un élément très très précis jusqu'à temps que effectivement l'IA me dise ah oui, effectivement, t'avais raison, c'est vrai, c'était on s'est trompé, désolé, etc. Bon, elle a pas mégoté ses excuses, mais tout ça pour dire c'est que bon, c'était quelque chose que je savais, que je connaissais très bien, donc je savais que je ne me trompais pas, mais quelqu'un qui ne serait pas sûr et qui serait à qui l'IA dirait deux ou trois fois mais si, ne corrigerait pas cette erreur, et cette erreur deviendrait une vérité du fait qu'elle n'a pas été corrigée, et que c'est quelque chose, il y a quand même peu de gens qui vont aller interroger l'IA sur un poème de Lazare Carnot. Bon, c'est l'ode à l'enthousiasme, en l'occurrence. Un très beau poème de... Très beau, c'est pas... Lazare Carnot n'était pas un poète, mais disons, l'intention est très, très, très intéressante. Enfin, bref, voilà. Ça, c'est
heureusement que tu l'as sorti, parce que maintenant elle en a tenu compte. J'espère. Et c'est sur tous les réseaux. Alors, maintenant, elle se trompe. Tout à l'heure, on fera un petit test pour voir s'il fait toujours l'erreur, le mien. Si le mien fait l'erreur.
Mais juste sur cette question que disais, donc l'environnement...
La socialisation.
La socialisation, je pense que c'est vrai-faux. Je veux dire, c'est un algorithme, c'est pas la pensée. Un algorithme, c'est des comment dire, des unités binaires.
Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je disais que c'est une caricature de la socialisation.
Oui, c'est une caricature. C'est un petit peu de la même manière qu'un polygone, le rapport du polygone au cercle. Le cercle, ça a une nature qui est foncièrement, fondamentalement différente d'un polygone, même d'un polygone qui aurait des côtés en nombre, comment dire, des milliers de côtés, si je puis dire. Donc on verrait, on aurait l'impression visuelle que le polygone est un cercle. Mais dans son essence, ce n'est pas un cercle, parce qu'un cercle, c'est une action continue sur elle-même, c'est ça qui définit, il n'y a pas d'accident en d'autres termes, tandis qu'un polygone, quand bien même il est l'action est absolument infime et imperceptible, on passe quand même d'un côté à un autre. Toujours, donc il y a toujours, ce n'est pas une action continue, c'est une action discontinue. Et ça, c'est dans l'essence même, c'est la différence, c'est une propriété en quelque sorte. C'est quelque chose, on peut faire ce qu'on veut, on ne changera pas, parce que c'est une propriété inhérente de la chose. Donc je pense que la différence entre la façon de penser humaine et la pensée algorithmique de l'IA, c'est qu'on est dans deux mondes différents. Donc l'IA ne sera jamais la pensée humaine, même si elle peut...
Entièrement d'accord avec toi, bien sûr.
Elle peut limiter de manière extrêmement brillante même, mais il faut faire attention, ce n'est pas la même chose et il ne faut pas se tromper. Et ça nous oblige, nous autres êtres humains, à vraiment faire un effort pour comprendre c'est quoi la différence entre les deux. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui ce n'est pas clair du tout.
Oui. Oh, tu exagères quand même, non. Mais attention, oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et moi, je voulais rajouter une chose, c'est de dire tout à l'heure, pour distinguer l'humain de l'IA, je parlais de joie de vivre, de goût, d'aspiration personnelle, et aussi d'amour et de sentiments, ce qui nous différencie avec l'IA, quoique un jour l'IA limitera aussi, mais il y a aussi autre chose qui est très important, c'est le fait que l'IA, quelque part, on pourrait dire, je disais tout à l'heure, c'est une caricature du fonctionnement de l'être humain. L'IA fonctionnerait de manière arithmétique, avec des données arithmétiques au niveau, de sa tendance à être influencé par son environnement, alors que l'être humain, lui, sa tendance à être influencé par l'environnement est exponentielle, c'est géométrique, donc on ne peut pas du tout comparer, quoi. Ce veut dire que j'en finis par me dire que l'être humain, c'est vraiment l'avenir de l'humanité, du monde et de la vie, puisque l'être humain est exponentiel et que tout ce qu'il invente autour de lui reste arithmétique malgré tout.
Oui, c'est bien vu. Je suis.
On est d'accord.
Ouais, je suis d'accord avec ça. Bah oui, ouais. Justement, c'est parce que l'être humain, quelque part, c'est encore là quelque chose d'une nature différente. C'est la vie par rapport à des choses qui sont que des choses créées, aussi belles soient-elles, mais
Autour de toi, il y a plein de choses qui influencent ta pensée. Hop, une mouche qui s'est posée. Attention, on l'enlève et hop, tout de suite, ça influence la pensée. Donc du coup, ça l'IA n'a pas.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, oui. Oui, on n'est pas dans la même géométrie du tout.
Par contre, ça peut être un bon compagnon, ça peut nous accompagner dans l'évolution. C'est comme ça qu'il faut le voir, je pense. Est-ce que tu veux qu'on mette une petite musique, ça? Est-ce que l'IA apprécie la musique? Ça, je ne sais pas. Tu as envie de quoi? Du Vivaldi, du Bach, de Handel? Quel est ton compositeur préféré?
Je peux te le dire après ou tu as besoin de savoir tout de suite là?
Oui, tout de suite.
Aïe. Oui, Bach, tu peux mettre le début de la Passion selon Saint-Jean, tiens. Allez.
Merci beaucoup. Chers auditeurs, on vous laisse écouter la Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach. Mais comme c'est assez long, on n'écoutera pas tout. À tout à l'heure. si, chers auditeurs, on ne peut pas tout vous passer, mais je vous offre, je vous propose d'aller voir sur YouTube et écouter la même chose. Jean-Sébastien Bach, La Passion selon Saint-Jean. Et avec Odile, on va discuter un petit peu, l'émission est presque finie. Vous savez, puisque vous la connaissez bien, que Odile s'active beaucoup dans une association qui s'appelle l'Institut Schiller. C'est une association à vocation internationale. Et côté français, Odile fait partie des membres les plus actifs. Elle participe à beaucoup de conférences, souvent elle voyage, parfois elle est allée dans plusieurs pays. Et elle va nous parler un petit peu de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment.
Alors, il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, la coalition internationale pour la paix, parce que l'Institut Schiller a joué un rôle essentiel pour lancer cette coalition, qui se réunit toutes les semaines et qui invite des gens qui sont qui voient ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle et qui réfléchissent à comment aux initiatives qu'on peut prendre pour construire la paix. Et ça passe pour nous, en tout cas, il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas de développement. Et en particulier aussi, ça fait plusieurs années que nous faisons campagne aussi pour un accord de sécurité, c'est-à-dire il n'y aura pas de paix si on ne prend pas en considération les besoins de sécurité de tous les pays, quels qu'ils soient. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. On a, par exemple, la semaine dernière, nous avions une invitée qui est une femme qui a pris l'initiative de lancer une pétition pour l'ONU, pour faire en sorte que l'ONU soit fidèle à la charte fondatrice de l'ONU. Donc ça peut paraître peut-être bizarre, non, je crois que malheureusement l'ONU a bien montré aujourd'hui qu'elle n'était pas du tout, qu'elle avait oublié un certain nombre de ses principes fondamentaux. Donc elle est venue expliquer ce qu'elle faisait. Et c'est important, ce sont des initiatives. Alors ça peut paraître par rapport à ce qui se passe peut-être lointain, mais c'est des choses importantes que des gens prennent ce type d'initiative. On a eu là aussi tout récemment une table ronde que nous avons faite là il y a le 2 mars avec des représentants internationaux, enfin des gens proches de gouvernement ou de différents horizons politiques pour essayer de donner un sens déjà que les gens sachent ce qui se passe parce qu'on se rend compte en particulier dans les pays occidentaux, que malheureusement c'est assez dramatique, mais les gens ne savent pas ce qui se passe. Donc ils ont une vision totalement erronée. Et on parlait entre nous tout à l'heure là des municipales. Et c'est vrai que là il va y avoir les municipales dans 15 jours. Et moi je suis assez atterrée quelque part de voir à quel point c'est vraiment au ras des pâquerettes. Alors je veux bien que les municipales soient effectivement, sont des élections locales, hein, bien évidemment, mais qu'on pose jamais la question de quand il y a des problèmes budgétaires, par exemple, d'où est-ce que ça vient qu'il y a des problèmes budgétaires, quand il n'y a pas de maternité dans tel endroit, pourquoi est-ce qu'il en est ainsi. Donc j'ai assez peu vu. J'ai pas fait le tour évidemment de toutes les municipales, hein, mais au global, j'ai quand même vu des choses qui étaient vraiment, comme je le disais, au ras des pâquerettes, où on prend les gens vraiment par le plus petit commun dénominateur, alors qu'on est dans une situation dans le monde où ce que les gens vivent, ça s'explique aussi parce qu'on est dans un monde qui va mal. Donc on peut pas faire l'impasse là-dessus. Et on essaye de polariser l'opinion sur des sujets les plus clivants qui soient. Bon, l'exemple le plus évident étant celui de la mort de ce jeune homme, Quentin Derenck. Donc on essaie de polariser les gens et de les jeter à s'étrangler les uns les autres sur ces questions-là, pendant que le train passe. Et le train, c'est quoi? C'est le changement de paradigme qui se fait dans d'autres pays. Il faut savoir, par exemple, et ça je pense que les gens l'ignorent, ignore totalement qu'il y a à l'heure actuelle en Afrique toutes sortes de projets de développement qui sont en train de se réaliser, qui sont des très beaux projets de développement. Il y a un transsaharien qui vient d'être, qui est mis en route. Enfin, ils ont franchi une étape importante, je ne sais plus c'est laquelle, mais en tout cas c'est un transsaharien qui se fait, je crois, entre la Chine et l'Algérie, qui va être extrêmement important pour désenclaver l'intérieur de l'Afrique. Il y a d'autres projets du même type qui se font, donc il y a un développement, il y a tout un continent. Un continent absolument gigantesque qui est en train de se développer et qui, lui, veut penser en termes de futur. Alors que nous, en France, on ne veut pas penser en termes de futur. Et il y a un problème. Et je pense que je m'interroge des fois parce que je me dis, bon, ok, est-ce que c'est parce que les Français sont pris dans le quotidien et parce que parce qu'ils peuvent pas faire autrement, parce qu'il faut vivre, il faut nourrir la famille, etc., etc. Et la situation est difficile. Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est à cause du fait que les médias jouent un rôle délétère? Les médias, ce qu'on appelle les grands médias à l'heure actuelle, qui sont quand même, rappelons-le, malgré tout, il faut toujours le dire, le rappeler autant de fois qu'il est nécessaire, sont quand même détenus par des milliardaires, hein, par 9 grands milliardaires. Donc on a des médias, quand je parle des grands médias, qui sont aux ordres, n'est-ce pas? Donc est-ce que ça influe beaucoup quand même?
D'où la presse. C'est ce que je disais, heureusement qu'il y a la presse populaire. Oui. Libre et indépendante, parce que moi j'ai peut-être pas ma carte de presse, mais bon, on fait des choses, quoi.
Il y a moyen de faire des choses, bien évidemment.
Je suis pas toute seule, il y a beaucoup de gens comme ça.
Bien sûr.
Il y a beaucoup, beaucoup de gens, de journaux, d'émissions de radio, de moyens de s'informer, sans passer forcément par une presse officielle. Oui. Quoique, moi j'aime beaucoup la presse officielle quand même, hein, je te l'avoue. J'ai un petit faible pour certains grands journaux qui sont là depuis très longtemps. Oui. Et puis je sais, on sait que de toute façon l'art de faire l'opinion et du politique, c'est de manipuler l'opinion via les médias. Donc ces milliardaires s'en servent pour abrutir les gens aujourd'hui. À l'époque au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. On s'en servait pour mener les gens soit vers des idées républicaines, soit vers des idées bonapartistes, ou pour leur montrer que c'était pas bien ce qu'on avait fait à Dreyfus, par exemple. Bon, voilà, c'est quand même important. On sait que de toute façon, la presse officielle est toujours manipulée.
Alors, je vais...
Mais ça, c'est l'objet d'une nouvelle émission. Odile, on peut pas, c'est l'heure de partir.
Je vais juste terminer là-dessus, parce qu'effectivement, il y a une presse officielle, comme on dit, où il y a d'excellents articles, des gens qui sont très bien informés et tout, et tout, et tout, et tout. Ça, c'est pas le problème, qui sont des professionnels et tout. Sauf que ce qu'il faut comprendre dans la presse, et ce qu'il y a dans la presse, et ce qui n'est pas dans la presse, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Premier point. Deuxième point, je terminerai là-dessus, c'est qu'effectivement, c'est vraiment un appel à nos concitoyens pour qu'ils fassent vraiment un effort de travail intellectuel. Parce que souvent...
De croisement de données perso.
Ouais, il y a une certaine paresse, il faut bien le reconnaître, et de mettre aussi la raison, de repenser avec raison. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont attirés, il faut bien le reconnaître, parce que dans la presse non officielle, il y a aussi des choses absolument à
Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut savoir faire des tris, donner, et surtout regarder la presse étrangère aussi.
Voilà, et juste pour terminer là-dessus, je pense qu'il y a un vrai travail de mettre sa raison critique à l'œuvre. Et voilà, et de
prendre... C'est très important.
Et d'aller à la pêche aussi, de voir ce qui n'est pas présent ou ce qui a été déformé dans la presse. Mais de faire ce travail intellectuel,
c'est... Il faut toujours partir du principe qu'on ne sait rien, comme Socrate.
Oui.
Voilà. Très bien. Merci, Odile. Écoutez, chers auditeurs, on vous dit au revoir. Je vous dis dans 15 jours, parce que maintenant, l'émission Mets de Résistance, vous le savez, c'est une fois tous les 15 jours. Je n'avais pas le temps de faire une émission toutes les semaines. Odile, à très bientôt. On fera une émission sur la presse, si tu veux.
Ah ben, pourquoi pas? Il y aura beaucoup de choses à dire.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.